Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Muriel van der Meulen, et je vous présente Un train peut en cacher un autre, une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par We Are the Words, l'agence que j'ai fondée et que je co-dirige. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de notre podcast Un train peut en cacher un autre. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour nous parler du brief SEO Daniel Roche. Daniel Roche, qui est donc Master in Chief chez SEO Key et SEO Mix. Bonjour Daniel.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir ici.
Est-ce qu'on dit Daniel Roche ou Daniel Rock?
Alors, je sais ce que j'allais dire justement, c'est Daniel Rock, il y avait une chance sur deux.
Oui, effectivement. C'est pas grave, je me la garde celle-là. Daniel, est-ce que pour nos auditeurs, tu peux te présenter en quelques mots?
Alors, rapidement, j'ai 38 ans, je suis expert SEO depuis 2008. Donc, je travaille sur tout type de sites, tout type de clients. Certains d'entre vous m'ont peut-être déjà vu, parce que je donne pas mal de conférences un peu partout en France, lors d'événements comme des WordCamps, des SEO Campus, des TEDx, ce genre de choses, ou par un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Optimiser son référencement WordPress », puisque j'ai vraiment une spécialisation dans ce CMS-là. Et donc, je suis créateur d'une agence qui s'appelle SEO Mix, dans lequel voilà, on fait de l'audit, de l'accompagnement, et également le créateur de SEO Key, une extension de référencement naturel pour WordPress, que je vous invite à tester si un jour vous avez le temps.
Bien sûr. D'accord. Merci, Daniel. Alors, je vais tout de suite passer dans le vif du sujet, puisque le sujet, c'est le brief contenu, mais plutôt axé sur le SEO. Quels sont, selon toi, les avantages d'un brief SEO pour créer du contenu en masse?
Alors, le premier avantage qu'on va avoir à avoir un brief SEO qui est bien conçu et bien fait, c'est de ne pas perdre de temps à faire un contenu qui ne servira à rien. Parce que des fois, on peut rédiger un contenu en prenant juste son inspiration et sa connaissance du sujet. Mais il s'avère qu'en référencement naturel, des fois, c'est pas du tout ce qui va être adapté et le contenu qu'on va rédiger et qu'on va publier derrière ne va pas du tout pouvoir se positionner dans les premiers résultats de Google. Et ce brief SEO, il va forcer la personne qui l'a rédigé, ou l'outil d'ailleurs, parce qu'après, le brief SEO peut servir pour des outils d'intelligence artificielle pour générer du contenu en masse. Dans un cas comme dans l'autre, en fait, ça se force à se poser les bonnes questions et de se dire, bah tiens, en fait, si je traite ce sujet-là, comment je dois le traiter, à qui je m'adresse, qu'est-ce que attend le moteur de recherche, comment ça doit être rédigé, et ainsi de suite. Donc, c'est ça surtout le gros avantage, c'est d'éviter de perdre de l'argent et du temps à rédiger un contenu qui, de toute manière, n'aura pas d'impact derrière.
Avec cette idée en plus que dès lors que tu donnes les mots-clés, longue traîne, l'intention de recherche, ça permet aussi au rédacteur du coup, d'avoir un angle et d'avoir un cadrage, et c'est moins la page blanche du coup. Donc, ça l'inspire aussi finalement.
Exactement. Ça permet d'étoffer. Donc, ça, c'est aussi un autre avantage. Oui. Si je prends un sujet, je sais pas, imaginons que je vais vendre des voitures, sur le sujet que je vais traiter, le brief SEO va me permettre de ne rien oublier. Puisque des fois, il y a des sujets qui sont assez vastes, assez complexes, et on peut très vite oublier tout un pan de la thématique. Et pourtant, c'est tout un pan de l'intention de recherche de l'utilisateur auquel on ne répond pas. Et donc, ce qui fait que notre contenu va être moins qualitatif, moins complet, moins pertinent pour les moteurs de recherche.
D'accord. Et du coup, comment est-ce qu'on va utiliser ce brief SEO dans le processus de création? Est-ce que on est d'abord sur un brief éditorial parce que l'annonceur, le client veut traiter tel et tel et tel sujet? Ou est-ce que c'est plutôt l'agence SEO qui elle-même sort une liste de mots-clés et dit au client « voilà ce dont vous voulez parler ». Est-ce que ça peut être une fois un cas, une fois l'autre? Dans ta pratique au quotidien, toi qui fais du SEO, est-ce que tes forces de proposition en premier lieu sur le brief?
Alors, nous, en tant qu'agence, on va surtout avoir une préconisation sur le sujet à traiter. Si le client vend tel type de produit ou tel type de service, nous, par l'analyse qu'on va faire, on va savoir quelles sont les expressions pertinentes et on va d'abord et avant tout avoir une plus-value là-dessus, lui dire, voici tous les sujets qu'il va falloir traiter sur votre site. Puisque c'est des sujets qui vont parler à votre clientèle, qui vont vous permettre d'avoir de la visibilité dans les moteurs de recherche et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quoi qu'il arrive, un consultant en référencement naturel ou une agence va avoir une plus-value à ce niveau-là. On va apporter déjà un conseil sur la liste des mots-clés à traiter. Mais un bon brief SEO, c'est pas que ça. C'est pas juste traiter tel sujet, c'est surtout de dire comment on va le traiter. Et donc là, on va avoir un mélange des deux. On peut avoir une approche purement SEO, c'est-à-dire dire voici le mot-clé ou l'expression sur laquelle je veux me positionner. Voici quel est le type de contenu que Google attend. Et donc, voici quel type de contenu vous devez rédiger. Voici les termes à utiliser. Voici l'univers sémantique. Voici les liens à ajouter de votre contenu vers les autres et des autres contenus vers le nouveau texte qui sera publié. Donc, on peut avoir une vision purement SEO. Mais un bon brief SEO va aussi intégrer toute la partie marketing. Quelle est ma cible? Quelles sont ses attentes? Quel est son niveau de connaissance? Si, par exemple, je fais un article sur l'audit SEO, si je m'adresse à des gens qui ont déjà des connaissances, je ne vais pas traiter cette page-là de la même façon que si je m'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas le référencement naturel. Donc, on va aussi avoir toute cette notion-là parce que ça va nous permettre de mieux convertir, de mieux répondre aux besoins et d'avoir quelque chose de beaucoup plus utile pour les moteurs de recherche et de beaucoup plus utile pour les internautes.
Tu viens d'évoquer le mot « page ». Tu dis « voilà, ce sera plus utile pour cette page-là ». Est-ce que le brief SEO pour toi va différer selon que c'est une landing page, une page produit, un article de blog, une page de contenu froid, ou est-ce que la démarche brief SEO est la même?
Alors, elle est la même, mais le contenu du brief SEO va être différent. Je m'explique. Ce qu'on va regarder, ce n'est pas la typologie d'URL de notre site, donc que ce soit la page d'accueil, un article, une catégorie, une landing page. En fait, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui va compter, c'est plutôt sur l'expression qu'on va taper dans le moteur de recherche, qu'est-ce qui ressort? Un exemple que je donne très souvent, imaginons que je sois un vendeur de tondeuse à gazon. Si aujourd'hui je vais dans un moteur de recherche et que je tape tondeuse à gazon, ma page d'accueil, enfin la page de résultat, pardon, ce n'est quasiment que des catégories de produits e-commerce. Ce qui veut dire que Google, ce qu'il attend, c'est une catégorie de produits. Et donc, dans mon brief SEO, ma demande, ça va être crée-moi une catégorie dédiée à ce produit-là, parce que sinon j'ai très peu de chances d'apparaître dans la page de résultat du moteur de recherche. Donc c'est plutôt on part de l'intention. Et de ce que Google affiche comme typologie de contenu, qu'on va décider dans le brief SEO de ce qu'on doit créer derrière pour être visible.
Mais ça veut dire aussi qu'on va développer sur cette thématique tondeuse à gazon, du coup, 3-4 briefs différents parce qu'on va avoir la page catégorie, la page produit, des articles plus d'inspiration qui seront sur des intentions informationnelnelles, navigationnelles, et pourquoi pas une page aussi dans « À propos » ou « Nos valeurs, nous sommes le roi de la tondeuse à gazon, ça fait 40 ans qu'on en fait ».
Tout à fait. Et puis après, on peut même aller encore plus loin, on peut partir, repenser à un bon brief SEO, on peut aussi penser à tout le parcours utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, sur un type de produit ou de service donné, vous avez des clients qui ont une problématique et qui veulent la résoudre, et qui savent comment la résoudre. Donc, quelqu'un qui veut entretenir sa pelouse sait qu'il a besoin d'une tondeuse à gazon. Mais on pourrait aussi avoir quelqu'un qui se dit « moi, je veux savoir comment faire que ma pelouse tienne sur la durée ». Et donc, la tondeuse peut être une solution parmi d'autres types de solutions pour sa problématique. Et puis, il y a des gens qui ont juste qui se rendent même pas compte du problème. Ils vont juste taper dans Google, par exemple, « ma pelouse est jaune, a jauni et a brûlé ». Ah bah c'est peut-être parce qu'elle est mal entretenue, donc peut-être que vous avez besoin de ça, et vous avez aussi besoin d'une tondeuse à gazon. Donc après, on peut aller très loin, et c'est pour ça que le brief SEO est très intéressant, c'est qu'on va essayer de capter l'internaute à toutes les étapes de son parcours utilisateur dans la réponse à son besoin et à sa problématique.
Oui, parce qu'on pourrait même du coup avoir encore une autre thématique qui est comment entretenir ma tondeuse à gazon pour faire aussi du coup attirer un autre trafic. Si je résume bien, ma prochaine question était celle-ci. Comment le brief SEO aide à aligner les contenus sur la stratégie SEO et marketing? C'est exactement ce que tu viens de répondre. C'est que, en fonction, donc, de l'étape dans le parcours d'achat, dans le cycle de maturité, et en fonction de l'intention de recherche, on va déployer un programme de contenu et donc des briefs SEO distincts pour les intentions, les objectifs et du coup, la typologie de pages et de contenu derrière.
Exactement. Et après, la clé, ça va être de les lier entre eux. C'est-à-dire que si je fais un brief sur ma catégorie de produits, j'en fais un autre sur des tutoriels, par exemple, comment entretenir sa tondeuse, comment la réparer, comment faire la vidange, etc. J'en aura d'autres briefs ici sur les produits. C'est de faire en sorte que tout ça se soit lié en termes de maillage interne, qu'il y ait une continuité. C'est-à-dire que quand je suis sur comment entretenir ma tondeuse, je vais amener vers les tondeuses dans lesquelles il y a le moins d'entretien à faire. Donc, je vais les lier directement mes fiches produits, où je vais ramener aussi ma catégorie de produits. L'idée, c'est qu'on a un bon brief SEO, il n'est pas isolé, il est intégré avec l'ensemble des autres briefs SEO et des contenus existants du site.
Donc, ça veut dire que dans mon brief SEO, typiquement sur ces fiches conseils, tutoriels, je vais avoir une case à un moment avec les produits ou les pages reliées, les sujets reliés, et qui indiquent déjà, du coup, les autres contenus qui sont en lien.
C'est ça, de dire dans ce brief-là, sur ce sujet-là, il faudra lier tel ou tel autre contenu parce que c'est pertinent et en référencement naturel et dans le parcours utilisateur de l'internaute. Oui. Et donc aussi, de la même manière, dans ces contenus-là, il faudra peut-être aussi lier l'article que l'on va publier. Donc, c'est vraiment faut pas voir le brief SEO comme une action qui est isolée, on fait un contenu et puis après, on le laisse vivre de son côté. Ce contenu, il est forcément intégré dans le reste de la structure du site.
Mais du coup, concrètement, si on a par exemple 50 pages produits à rédiger, est-ce que tu feras 50 briefs SEO ou est-ce que tu auras un brief SEO avec à côté un Google Sheet ou un fichier Excel avec tous les mots-clés ou comment est-ce que tu articules ça?
Alors, ça va dépendre. Je vais faire une réponse de référenceur, on répond souvent ça. En fait, ça va dépendre de la typologie de produits. Si je vends 50 tondeuses à gazon, mais qu'elles sont toutes similaires, ça va juste être une différence de taille, de puissance ou autre chose comme ça, on a une grosse partie du brief SEO qui va être commun. Parce que, comme c'est les mêmes types de modèles. Par contre, si j'ai des produits qui vont varier, et vraiment varier, bah là, je vais avoir des briefs différents. Si je prends les tondeuses à gazon, je peux avoir les tondeuses autoportées, les tondeuses thermiques, les tondeuses électriques, mais je peux aussi avoir les tondeuses automatiques. Donc, c'est pas les mêmes types de produits, c'est pas les mêmes types de besoins qu'il y a derrière. Donc, mon brief va potentiellement être différent. Des fois, on peut avoir une base qui est commune, mais théoriquement, ils seront tous un minimum unique parce que chaque produit a au moins un axe de différenciation par rapport au produit d'à côté. Si jamais on se rend compte qu'on fait deux briefs SEO pour deux produits et qui sont identiques les briefs SEO, c'est peut-être qu'il y a plutôt un problème marketing et peut-être que dans la conception même de nos produits, on n'a pas réussi à différencier correctement les deux modèles, l'un par rapport à l'autre.
Et dans le temps, du coup, puisque à partir du moment où on produit ces contenus, ils vont être publiés sur le site, toi, tu repasses derrière pour faire ton audit SEO, ton rapport SEO avec les fluctuations, montée de position, descente de position. Est-ce que, du coup, on reprend les briefs ou est-ce qu'ils sont adaptés ou est-ce qu'on adapte des briefs dans le temps parce qu'on est sur une phase plus de réécriture? Est-ce que ça se récupère, ça se recycle ou ça se surcycle hein?
Alors, en général, nous, on ne va pas refaire de brief SEO. Si le contenu a déjà été publié sur un sujet, on n'en refait pas un. Sauf si la préconisation a été de détruire l'article et de recommencer un de A à Z. Mais là, dans ce cas-là, on va plutôt être dans une phase de suivi et surtout d'analyse de, à la fois du marché et à la fois de ce que fait Google. Google, par exemple, lui-même analyse le comportement de l'utilisateur. Et des fois, Google changer l'intention de recherche. C'est-à-dire que lui-même va se dire, bah, en fait, la typologie de contenu que je montrais pour cette recherche, finalement, c'est pas ça que veut l'internaute, et qu'il va changer l'intention de recherche. Et donc, mon brief SEO qui était adapté avant, finalement, ne l'est plus. Et auquel cas, il y a deux cas de figure. Soit mon contenu n'est plus du tout adapté. Donc, ça veut dire que, ça veut pas dire que je dois supprimer ce contenu-là, mais en tout cas, pour l'expression que je ciblais, ce n'est plus le bon contenu. Et donc là, je vais refaire un nouveau brief. Ou alors, des fois, c'est d'un changement qui est léger d'intention, ou alors c'est juste une évolution pas énorme du produit ou du marché ou du comportement du client. Et là, on va pouvoir juste mettre à jour, sans forcément faire un brief complet. Là, pour le coup, on ne pourrait plus perdre trop de temps à faire un brief entier pour juste une mise à jour de contenu. On fait un brief plus succinct en disant voilà ce qui manque, voilà ce qu'il faut corriger et remettre en place.
Oui, donc c'est vraiment presque un autre brief aussi, parce qu'il y a des passages peut-être auxquels il ne faut pas toucher et qu'il y a des liens auxquels il ne faut pas toucher non plus. Et donc, on est dans une autre, c'est une autre tâche, la réécriture.
C'est une autre tâche, oui. Ça ne se présente pas de la même façon. Souvent, c'est des documents qui sont plus courts. Mais on va dire, voilà, ce contenu-là, il est bien, mais il faut corriger ça, ça, ça. Et on va dire les éléments corrigés, sous-entendu, bah, le reste, on n'y touche pas.
D'accord, très bien. Ça m'amène à la question suivante. Est-ce que tu as de mémoire un exemple qui montre aussi dans tes relations et des collaborations avec des clients que le brief SEO va augmenter, accélérer la capacité de production et réduire aussi les erreurs, surtout quand on a des masses de contenus, je pense à des catalogues e-commerce notamment ou des sites qui se lancent des nouvelles marques et qui veulent de l'article de blog à gogo. Tu as des exemples concrets?
Alors, j'ai pas d'exemple concret en soi, mais par contre, j'ai un ressenti qui est clair qu'on n'avait pas avant, qu'on avait avant de faire des briefs complets. C'est-à-dire qu'auparavant, au tout début de ma carrière, donc on remonte une bonne dizaine d'années en arrière, quand on disait à un client rédige un contenu sur tel sujet, on était assez succinct dans les indications et les consignes. Et en fait, c'est arrivé très souvent que le client nous fournisse un contenu ou que le rédacteur nous fournisse un contenu. Et puis, on dit, non, en fait, là, c'est pas du tout adapté pour telle ou telle raison. Parce que finalement, c'est pas du tout la bonne approche. On n'a pas pris en compte la cible finale. On n'a pas bien pris en compte la problématique utilisateur. Il va manquer tel ou tel aspect. Donc, en fait, depuis qu'on fait des briefs SEO, maintenant, ça fait quand même quelques années à l'agence, mais depuis qu'on fait des briefs SEO qui sont complets, on perd beaucoup moins de temps sur les allers-retours, etc. Et en plus, les clients qui suivent nos briefs et qui les appliquent, en fait, plus ils rédigent de contenu, plus ils se forment au SEO. Et donc, moins, en tout cas, on a à retoucher en profondeur les contenus textes qu'ils peuvent nous fournir. Et on a des clients qui ont des très, très bons résultats parce qu'ils savent exactement comment rédiger grâce à un brief qui va être complet.
D'accord. Oui, c'est ce cadrage qui va effectivement bien s'assurer qu'on gouverne tous les aspects du SEO et du contenu. Est-ce que dans cette idée-là, est-ce que tu te retrouves parfois aussi avec des clients qui rechignent à établir, à construire ce brief SEO au prétexte que c'est pas leur taf, que c'est le tien, ou qui n'en voient pas la visée? Ou qui ne voient pas, eux qui sont responsables produits, ils ne voient pas la valeur ajoutée de eux amener des éléments, ou alors qui piaffent parce que la mise en place de ce brief prend quand même pas mal de temps et qui voudraient déjà passer à l'étape suivante.
Nous, la problématique qu'on a, et en discutant avec d'autres référenceurs, que ce soit d'autres freelances ou des référenceurs dans d'autres agences, en fait, on a très souvent la même problématique. La problématique du brief SEO, c'est de réussir à impliquer le client en termes de temps. C'est-à-dire que, en général, ils vont pas. Je ne me souviens pas avoir vu des clients qui me disent je veux pas de brief SEO pour mon contenu, ça ne m'intéresse pas, etc. Ça va plutôt être la problématique de temps, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de rédiger le contenu. Donc c'est plus ça, c'est qu'ils ont dépensent un certain budget pour être accompagnés en référencement naturel, mais il faut aussi qu'ils y consacrent du temps à minima de leur côté. Et des fois, certains clients, malheureusement, n'ont pas le temps. Certains, des fois, pas l'envie, ou les deux, ni le temps ni l'envie. Donc c'est vrai que c'est plutôt là où ça bloque. Donc dans ce cas-là, on peut faire autrement en faisant appel à des rédacteurs externes, si possible spécialisés pour avoir vraiment un contenu qualitatif. Mais c'est plutôt là où ça pose problème. C'est-à-dire qu'en général, le brief SEO, ils vont comprendre l'intérêt de à quoi ça sert, pourquoi on l'a mis en place et pourquoi ils doivent le suivre quand ils vont rédiger un contenu. La vraie problématique, c'est est-ce qu'ils auront le temps de l'appliquer et de l'utiliser.
D'accord, donc pour toi, ils sont totalement disponibles pour tout ce volet plutôt justement stratégie marketing, de te dire c'est quoi leur site prioritaire, les produits qui vont vendre le plus, sait-on deux à gazon là plutôt que les autres et du coup on va commencer par ces produits-là, te donner les UVP, les USP de ces produits-là pour pouvoir remplir aussi ton brief SEO. Donc ce temps-là, ils l'ont, c'est vraiment quand il s'agit de se retrousser les manches et de produire ou là, c'est pas la compétence non plus, voilà, c'est ça, exactement.
C'est vraiment une question de temps, après ça arrive à tout le monde, on a tous des emploi du temps plus ou moins
ça,
chargé.
Et puis c'est une compétence clé, effectivement, qui n'est pas donnée à tout le monde. De la même manière qu'eux ne peuvent pas nécessairement sélectionner les bons mots-clés, leur demander de rédiger derrière, effectivement, même si aujourd'hui l'intelligence artificielle aide pas mal à ce niveau-là, mais ça reste quand même effectivement assez chronophage et puis une expertise en tant que telle. Exactement. Très bien, très intéressant. Je vais terminer par cette question, puisque tu es quand même connu pour ta spécialité dans le référencement sous WordPress. Est-ce qu'il y a dans ton brief des éléments techniques qui vont vraiment avoir un impact aussi sur la qualité et la performance SEO, et ces éléments techniques étant liés vraisemblablement à un CMS comme WordPress par exemple, ou Shopify, ou Wix, ou
Alors, normalement dans tous les briefs SEO, il y aura toujours une partie technique. Donc là, quel que soit le CMS, que ce soit un WordPress, un Magento, un Shopify, peu importe, il y aura des éléments techniques parce que il y aura les mêmes éléments techniques quel que soit le CMS. Des choses très basiques, ça va être l'URL, la balise title, la balise métadescription, tout ce genre de choses où techniquement, on va dire dans le brief, voici comment vous devez remplir ces différentes informations et ces différentes méta. Ensuite, en fonction du CMS qu'on va utiliser, effectivement, on aura des spécifications qui peut être plus ou moins précise, et au-delà même du CMS, c'est la façon dont ce site-là a été conçu. Je m'explique. Sur WordPress, par exemple, on a ce qu'on appelle les taxonomies. Les taxonomies, c'est ce qui va permettre de classer vos contenus. Par défaut, dans WordPress, on va retrouver les catégories et les étiquettes. Et donc, nous, si le site du client utilise les catégories et les étiquettes, on va lui dire comment les utiliser. On va lui dire, pour cet article-là, voici la catégorie qu'il faut choisir. Voici éventuellement s'il faut utiliser ou pas les étiquettes. Si oui, voici comment faire. Sinon, voici la raison pour laquelle il ne faut pas les mettre en place. Mais ce WordPress-là, peut-être qu'il a été conçu différemment, il y a peut-être d'autres taxonomies. Donc, c'est quelque chose de sur mesure. Et nous, je sais qu'on a des clients, des fois, qui ont 4-5 taxonomies différentes pour un même contenu parce qu'ils ont des problématiques très complexes de maillage interne. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais donc, dans ce cas-là, notre brief SEO va prendre en compte ces éléments-là et lui dire justement ce qu'il faut justement qu'il utilise ou qu'il n'utilise pas dans son WordPress à lui. Donc, il y a toujours une petite partie technique. Après, il faut être honnête, c'est pas la plus grosse partie, puisqu'en fait, en général, la partie technique, ça va plutôt être lié à l'audit global, où on va dire, voilà, ce qu'il va falloir faire sur votre site en termes de temps de chargement, de sécurité, de balisage schéma.org, de choses plus globales. Dans la rédaction elle-même, il y a quelques éléments techniques, mais c'est pas la majeure partie du travail, en tout cas, que le client doit faire et qu'il doit appliquer.
D'accord. Off the record, parce que je n'avais plus d'autres questions, mais j'en ai quand même une. Et est-ce que tu penses, toi, est-ce que tu vois dans ton business à toi que le fait d'avoir ces briefs SEO, c'est presque, non pas contractuel, mais ça lie quand même et c'est un gage de performance derrière et donc d'amener le client à comprendre aussi que cet outil-là, c'est un outil vraiment stratégique dans la stratégie de contenu et donc ce gage de performance derrière.
Alors, nous, je sais que les clients avec lesquels on travaille, le brief, alors il y a plusieurs, il y a plusieurs sujets. D'abord, c'est que quand ils voient ce type de brief par rapport au quand il y a 5-10 ans, on n'en faisait pas, pour eux, ça les implique un peu plus. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement, tiens, si on m'a envoyé un document de X pages qui détaille exactement comment je dois traiter tel sujet pour avoir de bons résultats, bon, s'il y a peut-être un intérêt, il va peut-être falloir que je me mette au travail. Et puis après, nous, en termes de performance, comme je le disais tout à l'heure, on le mesure, on a beaucoup moins de... Non seulement on a un contenu qui est optimisé beaucoup plus rapidement, donc on perd moins de temps, et on évite les cas de figure où on a publié un article qui, au final, ne sert à rien parce qu'il n'était pas optimisé, parce qu'on n'avait pas fait l'analyse nécessaire en amont avant de rédiger ce contenu-là. Donc, ça, c'est une certitude. Après, les référenceurs n'ont pas d'obligation de résultat. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aucun d'entre nous, malheureusement, n'a la main sur l'algorithme de Google. Et donc, on ne peut pas... Référenceur ne pourra jamais garantir de résultats. Donc, même avec un brief SEO, on ne peut pas garantir d'être positionné. Mais dans les faits et par expérience, un contenu rédigé suite à un brief SEO est en général beaucoup plus complet, beaucoup plus optimisé. Donc, théoriquement, a beaucoup plus de chances d'être dans le top 3 des résultats de Google.
D'accord. Dernière petite question, juste de pure contingence. Tu utilises quoi pour tes briefs SEO? Du Word, du Excel, du Notion, du...
C'est très variable. Je sais que moi j'aime bien Word, c'est très subjectif. On a des clients qui adorent Notion, qui utilisent beaucoup. À vrai dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'idée, c'est de trouver l'outil le plus pratique pour l'utilisateur final. C'est-à-dire que pour que le référenceur puisse rédiger son brief, transmettre facilement et que surtout la personne qui va l'utiliser puisse y accéder facilement et le lire facilement. Donc là, ça va être très subjectif. Je pense que chaque référenceur et chaque client est différent. Tester, voilà, certains peuvent préférer Excel, d'autres Notion, d'autres types d'outils.
Agnostique, donc.
Voilà, c'est vraiment, tant qu'on a un outil avec lequel on est à l'aise, pour moi, c'est le plus important. C'est un peu comme les gens qui préfèrent les Mac au PC ou les PC au Mac. Tant qu'on est à l'aise avec l'outil qu'on utilise, on fera du bon travail.
D'accord, très bien. Mais écoute, je pense qu'on arrive déjà à la fin. Je ne sais pas si tu as une chose à dire en particulier ou si tu as une remarque ou à formuler ou un conseil à donner.
Le meilleur conseil que je peux vous donner sur le brief SEO, c'est vraiment mettez-vous à la place du client final ou du prospect en tout cas que vous ciblez et regardez bien ce que Google affiche. Pas dans le sens où vous allez copier-coller les concurrents, mais essayez de bien comprendre ce que Google attend sur votre expression. Et déjà ça, si vous le faites bien, vous allez faire une grosse partie du travail du brief SEO et théoriquement, votre contenu ne pourra pas être mauvais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sera promis forcément, mais en tout cas, il ne pourra pas être perdu dans les limbes des moteurs de recherche.
Magnifique, super. Un grand merci, Daniel, pour ces réponses et pour cette expertise. Je suis sûre que nos auditeurs seront ravis. Et puis, si jamais il y a des questions, je te les transmettrai certainement, parce que c'est vrai que ça ouvre à pas mal d'autres questions et d'autres sujets. Merci à toi.
Ce sera avec plaisir, en tout cas. À bientôt. Ciao.